On va continuer notre étude dans le livre de Jacques, et on va être au chapitre 3 aujourd'hui, et on va lire les versets 13 à 18. Donc Jacques, chapitre 3, versets 13 à 18. Verset 13, il est dit « Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez encore dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. » Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. C'est un petit moment qu'on étudie ce livre de Jacques et on a déjà vu que ces chrétiens étaient dans l'épreuve et dans cette épreuve, il y avait la tentation parfois de vouloir se venger, de se mettre en colère. Puis on a vu aussi que Jacques va parler de choses peut-être qu'on minimise des fois dans notre vie de chrétien, comme le favoritisme, où on avait vu la semaine dernière notre langue qui peut faire des dégâts, hélas. Maintenant, il va parler de cette sagesse parce que la langue et la sagesse, c'est tout à fait lié. Donc, il va parler de cette sagesse qu'il désire plutôt être selon Dieu que selon notre propre sagesse à nous. Il définit un peu la sagesse rapidement, premièrement. Jacques va maintenant s'intéresser un peu à l'usage de cette langue que l'on a. Il a montré tout ce qui n'est pas bon. Maintenant, il veut nous montrer comment l'utiliser. Il dit « Lequel d'entre vous ?» Il pose la question aux chrétiens. On se demande à qui il s'adresse. Certains pensent qu'il s'adressait aux enseignants, comme on avait vu qu'il y avait des gens qui enseignaient et qu'il leur dit qu'il ne fallait pas trop presser d'enseigner. Mais peut-être qu'il s'adresse aussi à tous les chrétiens, parce que vous avez besoin de sagesse, vous ? Ah bon, il n'y a que moi, je croyais. On a tous besoin de sagesse. Quelqu'un est déjà vraiment sage, là ? Non, on a du boulot encore. On a besoin de sagesse, et on a besoin de sagesse et d'intelligence. Et c'est les qualités que tous les chrétiens devraient posséder. On va voir au fur et à mesure. Donc je pense que Jacques s'adresse surtout à tout le monde, mais peut-être aussi à ceux qui sont un peu prétentieux, puisqu'on avait vu la semaine dernière qu'il y en a qui veulent absolument enseigner, ou on a vu un peu plus tôt qu'il y avait des docteurs et qui aimaient bien parler, qui étaient un peu prétentieux. Mais est-ce qu'ils sont vraiment sages? Ça, c'est une autre question. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Vous répondrez dans votre question, dans votre cœur. Le mot « sage » en grec veut parler d'un homme qui est sage, d'un savant, de quelqu'un qui est expert ou de quelqu'un qui est cultivé. Alors là, évidemment, on s'adresse par rapport à la Bible, évidemment. Est-ce que j'ai une culture? Est-ce que je suis un expert de la Bible? Est-ce que je sais tout de la Bible et que je le mets en pratique, en plus? L'intelligence parle de quelque chose de quelqu'un d'expérimenté ou la connaissance d'un expert. Donc, on pourrait reprendre ce que dit Jacques. Lequel d'entre vous est un chrétien mature, un expert de la vie chrétienne? C'est ça qu'il est en train de nous dire. Et là, on va tous répondre, moi. Non ? Vous n'êtes pas encore d'experts, hein ? Bon, les jeunes chrétiens, je veux bien comprendre, mais au bout de 20 ans, là, quand même. On devrait être des pros, on va dire, de la vie chrétienne. Normalement, on devrait avancer, en tout cas. Ce ne sera jamais parfait, ça, c'est sûr. Mais en tout cas, on devrait avancer beaucoup plus vite. Et Jacques nous dit qu'une telle prétention, parce que si vous pensez être comme cela, parce que vous dites non, mais dans le cœur, je ne sais pas, si on a cette prétention-là, il dit qu'il faut le montrer. Ça se démontre, ça se voit, qu'il le montre par ses œuvres. Il a déjà parlé de cette foi qui se démontre par les œuvres. On n'est pas sauvé par les œuvres, mais une fois qu'on est sauvé, on démontre certaines choses par les œuvres, par ce que l'on fait. Il dit que donc, si vous êtes comme ça, si vous êtes tellement sage, montrez-le par vos œuvres. Le verbe « montrer » veut dire « faire connaître, apprenez-nous ou manifestez-nous, justement, votre grande connaissance ». Et les œuvres, on l'a vu la dernière fois, c'est ce qui découle de la nouvelle naissance, c'est ce qui découle de la vie chrétienne. C'est l'amour, c'est la paix, etc., etc. Alors comment montrer ces œuvres? Il dit par la conduite. Si vous êtes prétentieux, si vous avez vraiment de la sagesse, montrez-le dans votre conduite, dans votre manière de vivre, dans l'apparence. Pas que l'apparence, parce qu'on peut avoir l'air d'un super beau chrétien et derrière faire carrément le contraire. Montrez-le dans votre comportement, montrez-le dans votre amour. Les uns pour les autres aussi. Et dit aussi par la douceur de la sagesse. Ah, la douceur de la sagesse. Quand on est sage, on devient doux aussi, à ce qui paraît. C'est une gentillesse d'esprit, mais qui agit avec la sagesse de Dieu. Plus on devient sage, Je pense, moins on devient méchant vis-à-vis des autres, plus on a de l'amour, plus on essaie de pardonner, plus on est miséricordieux. Mais là, le chemin est encore très long pour que ça devienne naturel dans le cœur du chrétien. Mais si vous avez cette prétention d'être sage, ben on va le voir, tout simplement, parce que vous le démontrez au quotidien et dans l'Église. Si on cherche un peu une définition de la sagesse, hein, j'avais noté de quelqu'un, la sagesse s'efforce par l'observation, l'expérience, la réflexion de parvenir à connaître les hommes et Dieu. Elle est l'expression du bon sens humain. Et je pense que derrière, il y a l'idée de travailler. Parce que la sagesse, ce n'est pas un truc qui vous tombe sur le coin de la tête un jour. Ça serait bien pratique, hein, mais je pense qu'on l'apprend. Elle est parmi les hommes, parce qu'on apprend la sagesse des hommes aussi, hein, il y a une forme de sagesse, mais quand elle est multipliée avec celle de Dieu, alors là, elle devient excellente, cette sagesse. C'est un don de Dieu, je pense. Vous vous souvenez de Salomon, qui, avant de prendre son poste de roi, Dieu lui a proposé de prier pour obtenir ce qu'il voulait, et ce qu'il demande, c'est de la sagesse pour guider le peuple. Il reconnaissait tout simplement qu'il n'était pas capable de le faire, et Dieu le bénira encore plus après. Mais c'est un don que Dieu veut nous donner aussi, la sagesse. Elle implique d'abord la crainte de Dieu et l'obéissance à ses commandements. En psaume 111:10, il est dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine, sa gloire subsiste à jamais. » Si vous voulez être sage, il faut apprendre d'abord à craindre Dieu. Pas avoir peur, mais le respecter, hein, lui obéir. Le proverbe 9:10 dit « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. » Si vous êtes quelqu'un qui craignait Dieu, qui en plus avait de la sagesse, vous devenez intelligent. Chouette, pas mal. Pas intelligent comme le monde, je pense, mais intelligent selon Dieu. Donc Jacques rappelle que être sage, ça se voit, tout simplement au quotidien, et dans votre relation avec les uns et les autres, on verra à un moment ou à un autre si vous êtes réellement sage. Oh, il nous arrive des fois de craquer, hein, dans les relations les uns avec les autres. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un peu de sagesse, mais quand même. Et il va ensuite définir deux types de sagesse, hein, dans son texte. Il va montrer la sagesse des hommes, qui est plutôt pitoyable, d'après le portrait qu'il en fait. Et puis il va montrer la sagesse selon Dieu. La sagesse selon l'homme, il dit, elle est tout simplement mauvaise. Pas toujours, il ne faut pas non plus exagérer, mais globalement, quand même. Et lui, il dit, avant de vouloir évaluer peut-être cette sagesse, on va commencer par faire un examen au fond de notre cœur. On a vu que tout vient du cœur, hein, ce qu'on dit par la langue vient du cœur, et notre sagesse aussi va venir de ce cœur. Si on a dans le cœur, si vous avez dans le cœur, il dit, hein, c'est-à-dire prenez le temps de faire un petit examen personnel. Il y en a qui font des examens pour la santé, mais c'est bien des fois de faire des examens spirituels. C'est vrai qu'il y a des fois des maladies là aussi, qui sont là. Parce que tout vient de ce cœur-là. Et faire un examen du cœur, ça me pousse à un moment aussi d'être honnête devant Dieu et devant moi aussi. Hein. Parce que le cœur, il est tortueux et on en fait ce qu'on a envie. Si j'ai envie de dire que je suis sage, je serai sage. Bon, je ne le démontre peut-être pas par mes actes. Mais de temps en temps, s'arrêter pour faire un examen de ce cœur. Et c'est ce que Jacques dit. Et si vous y trouvez, et là il va exprimer plusieurs choses, un zèle amer, c'est-à-dire Darby traduit par une jalousie amère dans ce cœur-là, eh bien il y a un problème. Le zèle, ça parle de jalousie, de rivalité, d'ardeur, hein, méchant. Le zèle amer, tout simplement. Et le mot amer, en grec, veut dire passer au travers, ou ça veut dire, il y a l'idée de percer. On imagine que ça perce le cœur et ça fait mal, tout simplement. Hein. Ça fait très mal au cœur, et surtout, ça va faire mal pour ceux qui vont le subir autour d'eux. Et combien de chrétiens ont des fois ce zèle amer ? Ils ont un sourire peut-être comme ça d'apparence, mais au fond, sont jaloux, ont des rivalités les uns avec les autres, peut-être même des conflits. Mais ça ne se voit pas. Mais ils en souffrent. Ils en souffrent quelque part. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Et si vous avez un esprit de dispute, dit Jacques, l'esprit de dispute, hein, le mot parle de faire une campagne électorale. Vous savez, quand il y a toutes les campagnes électorales, il y a des intrigues, on se fait des coups bas. C'est exactement ça, l'esprit de dispute. Ce mot ne se trouve avant le Nouveau Testament que dans Aristote, où il dénote une recherche personnelle de la poursuite d'une fonction politique par des moyens injustes. Quand on a un esprit de dispute, on est un politicien, on pourrait dire quelque part. On est prêt à tout pour arriver à ses fins, tout simplement. Dans la Kabbale juive, hein, on parlait même d'occultisme. C'est dire combien c'est mauvais. Il y a l'idée de complot, d'intrigue, de ragot, de faire des coups bas à mon frère, à ma sœur, tout simplement parce que bon, on n'est pas d'accord dans certaines situations. Et il y en a qui sont même prêts à diviser l'Église parce que moi, j'ai raison. Moi, j'ai raison, vous, vous n'avez pas raison, donc je divise l'Église, tant pis pour vous. C'est terrible quand on en arrive à ce point-là. Mais peut-être on n'est pas aussi loin des fois, mais des fois on se dit quand même, j'ai raison, sans se remettre en question, sans prendre le temps de prier, sans le temps de prendre le temps de parler peut-être avec d'autres, pour voir, pour évaluer justement ce cœur. Parce que des fois, l'évaluation du cœur, quand on le fait soi-même, hein, 20 sur 20. Je suis au top en ce moment. Mais par contre, si on passait par un filtre d'autres personnes, là, la note, elle baisserait bien souvent. Mais bon, si on a un zèle amer, si on a un esprit de dispute, il y a un problème. Et il dit, Jacques, qu'il ne faut pas se glorifier dans ce cas-là. Si vous pensez être sage et que vous avez tout ça dans le cœur, oh, calmez-vous, il n'y a pas besoin de se glorifier là. C'est-à-dire de s'enorgueillir, de triompher. L'orgueil, c'est bon. Même dans le travail pour le Seigneur. Parce que des fois, on travaille pour Dieu, on est là constamment à l'église, et puis dans le cœur, ça monte, ça se transforme tout doucement en orgueil. On se dit, hein, moi je suis là tout le temps, les autres ils sont jamais là, donc moi je suis le meilleur des chrétiens et tout ça. C'est de l'orgueil, ça, tout simplement. Le Seigneur nous a donné un travail, on le fait tout simplement. On est des serviteurs inutiles, souvenons-nous de cela aussi. Mais ne pas se glorifier et ne pas mentir contre la vérité, parce que c'est ça qu'on fait, hein. Celui qui se croit sage et qui est dans son cœur avec de la jalousie est complètement à l'opposé de la sagesse, tout simplement. Parce qu'un sage n'est pas jaloux de l'autre. Ouais, il a une plus belle maison. Et alors, c'est Dieu qui lui a donné. Il m'a donné ce que j'ai. Ben, j'en suis content. On n'est pas toujours comme ça, hein. Mais bon. Mais c'est ça, être sage. C'est, si je mens contre la vérité, contre la parole, contre Dieu, quelque part, c'est donner un mauvais témoignage. Je mens et je ne présente pas qui est vraiment le Christ. Je ne présente pas vraiment la sagesse selon Dieu à ce moment-là. Et c'est bien dommage. Le problème, c'est que si on a tout ça dans le cœur, on est triste. On est malheureux. À moins que vous ayez vraiment un cœur tordu au point que vous en prenez plaisir. Ça arrive, hélas. Mais ça nous rend vraiment triste. Au verset 15, il montre l'origine de cette mauvaise sagesse. Parce que ce cœur, avec ce zèle, avec cet esprit de dispute, se croit sage. Tout simplement. Et il exprime dans le quotidien cette sagesse. L'origine de la mauvaise sagesse, elle ne vient pas d'en haut, il dit. Elle ne correspond donc pas à celle de Dieu. Ça n'a rien à voir. Bien que nous, on se trompe nous-mêmes, des fois. Elle est humaine, il dit. Il va crescendo, c'est ça qui est intéressant, là. Elle est d'abord humaine parce qu'elle est limitée par ce que j'ai appris dans ma vie. Alors, selon nos origines, selon la famille, selon peut-être les études, ou je ne sais pas, notre sagesse est complètement différente les uns des autres. S'il fallait résoudre un problème là, on ne serait pas tous d'accord, s'il est vraiment épineux. Et on serait prêt peut-être à se taper les uns sur les autres, parce que moi j'ai raison, ma sagesse est plus grande que la vôtre. Non, elle est bâtie sur ce qu'on a vécu dans notre vie, et il faut toujours s'arrêter en se disant qu'elle n'est pas parfaite, loin d'être parfaite, et qu'elle a besoin d'être améliorée. Et surtout, la sagesse humaine refuse Dieu, et donc forcément ses conseils et sa sagesse. C'est ça le problème. Et donc forcément, elle est corrompue. Ensuite, il dit, elle est charnelle. Elle vient de la chair. C'est-à-dire qu'elle va, elle va s'occuper que de notre chair, de ce que notre chair a envie. Et elle va s'arranger pour arriver jusqu'à ben, que la chair soit satisfaite, tout simplement. Mais la Bible nous dit que la chair est à l'opposé de ce que veut l'esprit. Et que quand on est chrétien, il y a un combat qui se fait dans notre cœur, je crois que vous l'avez réalisé, entre mes désirs, la chair, et ce que Dieu veut. À moins que vous soyez des chrétiens tout le temps obéissants, mais j'y crois pas. Vous seriez en train de mentir déjà là. Mais il y a un combat dans notre cœur entre cette chair. Et justement, parce que nous avons encore cette chair, on ne laisse pas faire Dieu complètement dans notre vie. Et forcément, ben, notre sagesse, elle sera charnelle. Et puis il va encore plus loin, il dit carrément, elle est diabolique. J'ai déjà dit que quand vous vous croyez sage, il y a peut-être des fois un peu du diable là-dedans. C'est terrible, hein, parce qu'elle vient d'un mauvais esprit. Alors, ce n'est pas forcément diabolique parce que vous êtes possédé, on est bien d'accord. Mais l'esprit de ce monde, c'est l'esprit du diable, tout simplement. Et le monde se croit sage, mais il est inspiré par le diable, tout simplement. Et il vit avec cette sagesse, et on voit la sagesse dans le monde. Hein. Ça apporte quoi ? La paix, la prospérité, l'amour ? Ah ouais, c'est bizarre, hein ? Non, non, on s'entretue avec la sagesse humaine. On est prêt à dévorer l'autre parce qu'on est plus sage que lui. C'est triste. Et c'est pour ça qu'elle est diabolique, quelque part. On a besoin d'être transformé par le Seigneur pour apprendre à devenir vraiment sage. Verset 16, il dit que cette sagesse du monde, elle est complètement incompatible avec Dieu, quelque part. Parce que là où il y a un zèle amer, un esprit de dispute, c'est-à-dire, tout ça, c'est du péché, en fait. Tout ça, c'est la chair, quelque part, et elle pousse même le chrétien, des fois, à faire du mal à son prochain ou à quiconque, parce qu'il agit comme le monde, tout simplement. Et se croyant des fois sage, il est prêt à aller même loin vis-à-vis de son frère ou de sa sœur. Et ça, c'est triste. La sagesse humaine est inspirée, on l'a dit, par le diable, et elle ne peut qu'être corrompue. Quelqu'un écrivait « La sagesse, c'est pour les 9/10 le fait d'être sage au bon moment », disait Théophile Roosevelt. Beaucoup d'entre nous sont trop souvent sages après l'événement. C'est après qu'on a compris qu'il fallait être sage, bien souvent. Donc, ce péché, ce manque de sagesse, quelque part, elle vient de notre chair, parce que la chair est beaucoup plus forte, on pourrait dire, que le Saint-Esprit, ou du moins le Saint-Esprit laisse faire. Mais si on laisse faire le Saint-Esprit, il va changer cela dans notre vie. Le fruit de ce zèle amer ou de cet esprit de dispute, il dit, c'est le désordre, c'est le bazar. Le mot désordre parle de trouble, de soulèvement même. C'est carrément l'opposé de la paix, tout simplement. Si j'ai ça dans mon cœur, je ne pourrai jamais apporter la paix aux autres. Déjà, je ne l'ai pas avec moi-même, donc forcément, je rends ce que j'ai dans mon cœur au prochain. Le désordre, et quand les églises, des fois, se divisent, se troublent, c'est justement parce qu'il y a un zèle amer dans les cœurs de ces chrétiens-là. Il dit, ça apporte aussi toutes sortes de mauvaises actions à cause d'une sagesse qui est mauvaise, tout simplement. Si je suis sûr d'être sage et que je vais agir en fonction de cette sagesse qui est corrompue, forcément, je vais me planter. C'est ça le problème. Il faut s'arrêter, comme il a dit, prendre le temps de s'analyser ou de se faire analyser par les autres pour voir si on est vraiment sage. Ça apporte l'amertume, ça apporte la dispute et toutes ces choses-là, finalement, nous prive de la joie, nous prive de la paix que le Seigneur veut nous donner au travers de son esprit. Et vous savez, quand ça se passe, quand il y a un zèle d'amère comme ça, un esprit de dispute dans l'Église, il y en a un en bas, il est en train d'exulter, il est tellement heureux de voir les chrétiens se disputer, se faire du mal. Satan, il est content parce que l'Église est paralysée. Elle ne peut plus avancer dans cet état-là. Et donc, lui, il est content. Et puis, il rajoutera un petit peu à tout cela pour que ça aille encore un peu plus loin. Le problème, c'est que quand on est dans cet état, après, il faut s'arrêter, demander pardon aussi aux uns et aux autres. Et ça, c'est pas toujours simple. Et le diable est là, hélas. Donc Jacques dit, si la sagesse de l'homme est inspirée par Satan, Jacques, lui, voudrait que les chrétiens soient inspirés plutôt par la sagesse de Dieu. Et c'est ce qu'il va dire au verset 17 à 18. Il parle de cette sagesse qui vient d'en haut, c'est-à-dire de Dieu. C'est-à-dire de celui qui a tout créé, mais qui a aussi créé la sagesse, on pourrait dire, quelque part. Et Dieu est le seul référent en matière de sagesse. Si vous voulez vous comparer votre sagesse, ben vous n'allez pas me voir, moi. J'essaie d'être sage, mais je suis comme vous. Mais allez voir Dieu. Enfin, allez le voir dans sa parole, évidemment. Et là, vous allez pouvoir commencer à comparer votre sagesse, comment moi j'aurais fait, comment lui ferait. Et là, on va vite être confronté à se rendre compte qu'on est loin du but. Lui est le seul capable aussi d'être sage parce que ses attributs divins le poussent à cette sagesse, parce qu'il est saint, parce qu'il est parfait, qu'il n'y a rien de mauvais, et donc forcément cette sagesse, elle est absolument pure et parfaite. Il est donc le seul référent pour moi en matière de sagesse. Et comment je peux apprendre cette sagesse? La parole, tout simplement. Comme j'ai dit, ça ne va pas vous tomber sur le coin de la figure. J'aimerais bien un petit SMS, c'est réglé, quoi. Mais ça ne marche pas comme ça. Un petit téléchargement, je suis sage. Non, on va apprendre en lisant la parole. Le problème, c'est que si on veut être absolument parfaitement sage, enfin, avec la notion humaine, il faudrait connaître toute la Bible par cœur. Quasiment. Ah oui. Des fois, on se limite à une petite sagesse, c'est-à-dire on se limite à une petite connaissance de la parole de Dieu, et donc forcément, on sera un petit sage, on va dire. Mais si j'apprends vraiment à connaître Dieu, à connaître sa parole, alors forcément, ma sagesse va augmenter, ma manière d'agir va changer, et elle sera de mieux en mieux. Donc c'est un petit encouragement à lire la Bible. C'est les vacances en ce moment, donc on a le temps. Enfin, pour ceux qui ont encore la chance d'être en vacances, mais on ne lit pas la Bible que pendant les vacances, hein. Ça se lit tout le temps, normalement. Parce qu'on veut devenir sage. Si je ne la lis pas, je dis quelque part, moi, la sagesse, c'est pour les autres. Moi, on fout. Ben oui, mais c'est ça, quelque part. Parce que Jacques nous dit, il faut apprendre à devenir sage. Ce n'est pas une option dans la vie du chrétien. Ce n'est pas quand je serai prêt, quand j'ai envie, on verra bien. ça devrait commencer tout de suite après le culte. Enfin, ça aurait déjà dû commencer il y a longtemps, normalement. Et il va parler des caractéristiques de cette sagesse. Il énumère plusieurs choses. Cette sagesse de Dieu, elle est pure. Le mot veut dire chaste, digne de révérence, immaculée. C'est-à-dire sans mal, sans notion de faire du mal au prochain. Elle est parfaite, comme Dieu. Elle est aussi pacifique. Le but du chrétien, normalement, c'est de rechercher la paix avec les autres, même quand ils sont pénibles. On a plus envie de les taper dessus, des fois, avec les autres chrétiens, mais celui qui est vraiment sage, selon Dieu, cherche la paix. Dieu fait la même chose avec les hommes. Il cherche la paix tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même si des fois, il nous fait un peu un petit trébucher parce qu'on est en train de pécher, qu'est-ce qu'il cherche? C'est la paix, tout simplement avec moi. C'est moi qui suis en train de pécher contre lui. Et le sage, le vrai sage, cherche la paix tout le temps. Ça veut dire qu'il y aura des épreuves, des fois. Il faudra accepter de prendre sur soi. Même si l'autre en face, il est pénible. Savoir prendre le temps de prier, d'être conseillé. Mais il ne s'agit pas d'avoir un zèle amer, de devenir amer dans son cœur vis-à-vis de cette personne. Il faut chercher la paix avec l'amour. Cette sagesse, selon Dieu, est modérée aussi. Elle parle avec de la douceur de la sagesse à l'encontre du prochain. Moi, j'aimais beaucoup Jésus, quand il s'adressait à tous ces pharisiens, tous ces gens qui voulaient tout simplement le tuer. Il s'est jamais énervé. Il a toujours eu les paroles juste pile poil pour toucher le cœur, et avec beaucoup de douceur. Qu'une fois qu'il s'est emporté, mais il avait raison. Enfin, emporté. Il a montré dans le temple, quand il a chassé tous ses marchands, et il a montré quelque chose à ce moment-là. La sagesse est conciliante aussi. Ça veut dire, le mot veut dire obéissant facilement à Dieu. Ça pose problème, hein ? Docile au commandement de Dieu. Vous êtes docile au commandement de Dieu ? Aux ordres. Tous les jours, je me lève et je veux obéir à Dieu. Ah, vous voulez quand même pas me dire que vous voulez pas obéir à Dieu. Tous les... Oui. J'espère que vous avez envie d'obéir au commandement de Dieu. On apprend au fur et à mesure à devenir de plus en plus obéissant. Elle est pleine de miséricorde. Vous connaissez la miséricorde, la bonne volonté envers peut-être celui qui est misérable. C'est la compassion derrière, c'est de la pitié peut-être pour celui qui est dans la difficulté. Elle est pleine de bons fruits, de bonnes œuvres. Comme on l'a dit, ça démontre tout simplement notre foi, ça démontre notre salut, ça démontre qu'on veut obéir au Seigneur aussi. Elle est exempte de duplicité, sans partialité. Il revient sur le favoritisme. Quand je suis sage, je ne fais pas de favoritisme, même si c'est des fois très difficile, même si ça va me coûter, je suis partial, tout simplement. Impartial, pardon. Je ne ferai pas de favoritisme. Et puis, il termine en disant, elle est exempte d'hypocrisie. Il s'agit d'être sincère. Des fois, le chrétien feint certaines choses parce qu'il n'ose pas parler à la personne qui l'a embêté ou parce qu'il ne veut pas dire des choses à un chrétien qui est dans le péché. Puis on est hypocrite. Alors, ça dépend comment on va aussi lui dire. Mais il s'agit d'être sincère vis-à-vis des autres. Et si vous avez un problème contre moi, ne faites pas un sourire le dimanche matin. Venez me voir, tout simplement. Sinon, c'est de l'hypocrisie. Moi, j'aime bien écouter les gens. C'est génial de pouvoir se parler, non ? Puis de régler le problème tout simplement, au lieu de le garder, de le porter, et puis ça augmente, et c'est bien triste des fois. Donc voilà, pure, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde, pleine de bons fruits et de bonnes œuvres, exempte de duplicité, exempte d'hypocrisie, ça, c'est la sagesse selon Dieu. Et on a du travail, c'est chouette. Parce que moi, le chrétien, il ne sera jamais au chômage, il a toujours du boulot, que ce soit dans l'église, que ce soit dans son cœur, il y a toujours quelque chose à faire pour Dieu. Au verset 18, il parle des conséquences de cette sagesse. Ça, c'est important. Dans le français courant, il traduit ainsi le verset 18, il dit « Ceux qui créent la paix autour d'eux sèment dans la paix, et la récolte qu'ils obtiennent, c'est une vie juste. » Je refais. « Ceux qui créent la paix autour d'eux sèment dans la paix, et la récolte qu'ils obtiennent, c'est une vie juste. » Je préfère cette traduction-là, parce qu'elle est un peu plus claire. La sagesse va créer forcément autour d'elle la paix. C'est obligatoire, sauf si vraiment l'autre il est tordu, là on peut rien faire. Mais normalement elle va produire la paix. Ces fruits, comme dit Jacques, sont paisibles, contrairement aux fruits du zèle amer et de l'esprit de dispute qui là ne va pas forcément apporter la paix, mais bien d'autres choses terribles. La paix, c'est pas être laxiste non plus, parce que souvent on dit, pour avoir la paix, ok, je vais rien dire, comme ça moi je suis tranquille, je vais pas me prendre plein la figure encore une fois. Elle n'est pas laxiste ou hypocrite. Mais elle sait dire la vérité paisiblement. Si quelqu'un vous a fait du tort, il ne s'agit de pas taper sur la personne, il ne s'agit pas de garder ça au fond de soi, mais d'aller voir la personne aimablement, lui dire « Il m'a fait mal, tout simplement. Après, on verra bien s'il veut bien écouter ou pas. Mais quand on vient comme cela, avec un cœur disposé comme cela, les choses se règlent beaucoup plus vite, normalement. Donc elle produit la paix autour d'elle. Cette paix permet ensuite de semer à son tour la paix. Puisque là où on sème la paix, forcément, ça va apporter de la paix aux autres. Et eux vont la semer aussi, enfin j'espère. Parce qu'elle est pure, on a vu, pacifique, modérée. Elle apporte la paix à tout son entourage. C'est chouette quand tout le monde est en paix. Quand il n'y a aucun problème. Ah, je rêve de ça tous les jours, moi. Une église où il n'y a jamais de problème. Ce serait chouette, hein? Bon, on s'ennuierait à un moment. Parce qu'on est tellement tordu des fois. Cette paix est donc semée sans jalousie, sans désordre, et donc elle va permettre que chacun agisse dans la paix et pour la paix. Et comme dit Jacques, quand on sème la paix autour, forcément on récolte quelque chose pour nous, et il parle là d'une vie juste. On verra justement que vous êtes juste, parce que ce qu'il avait dit au début, hein, montrez-moi votre sagesse par votre vie. Et bien justement, je te le montre parce que ma vie est juste. Si la sagesse humaine récolte souvent l'amertume, le désordre, la dispute et finalement la guerre, la sagesse selon Dieu va récolter des fruits d'une vie de droiture et de paix, que des bonnes choses pour soi. Et quand on est en paix, nous, comment on est ?
La joie.
Heureux. La joie, ouais, tout simplement. C'est tellement agréable. Finalement, Dieu veut toujours qu'on soit joyeux et nous, on veut toujours être malheureux. Parce qu'on aime bien le zèle amer, on aime bien se disputer. On est des débiles des fois, je suis désolé de le dire. Naturellement, on aime bien plutôt ce qui nous fait du mal. On est tordu quelque part. Mais la sagesse récolte une vie tout simplement juste. Et cela est profitable à l'Église, cela est aussi profitable dans la famille, c'est profitable sur le lieu de travail, c'est profitable avec ses amis, c'est tout le temps profitable. Quelqu'un écrivait concernant la sagesse de Christ, « C'est pourquoi je pose comme règle, celui qui prêche Christ et qui s'efforce en même temps de la saisir, celui-là ne s'épuise pas, mais notre propre sagesse s'épuisera, car elle est contenue dans une urne et toute urne a un fond. La sagesse de Christ est au contraire infinie et de sa plénitude nous pouvons puiser grâce sur grâce. » La sagesse de l'homme est bien souvent limitée, mais celle de Christ est absolument infinie et on pourra être de plus en plus sage avec notre entourage. Alors on peut se poser la question, mais comment je deviens sage ? Parce que moi j'ai envie, hein. Enfin, j'espère, non ? Tout le monde, c'est pas unanime, hein. C'est curieux là, vous préférez ne pas être sage. On peut obtenir cette sagesse, il avait déjà répondu à cette question au chapitre 1, verset 15, il faut demander à Dieu, tout simplement, et le demander avec foi. Mais avant de demander, ce qu'il nous montre là, c'est qu'il faut d'abord reconnaître qu'on manque de sagesse profondément. Si je ne le reconnais pas, je pourrais demander tout ce que je veux. Quelque part, c'est se repentir peut-être de ce manque de sagesse. Il faut que je réalise que j'en ai pas et que j'ai besoin de celle de Dieu, parce que la mienne est corrompue. Et quand on demande avec foi, sans douter, il dit au chapitre 1, avec humilité aussi, je pense, derrière, hein, parce qu'il ne faut pas se dire après, « Ouais, j'ai la sagesse de Dieu, moi, pas toi. » Non, il faut la demander avec beaucoup d'humilité et Dieu nous la donnera, tout simplement. Mais je pense aussi, parce que par rapport à d'autres textes, hein, dans ce travail de sanctification que Dieu veut faire, l'expérience de la vie chrétienne va aussi nous apporter de la sagesse. Un jour, j'ai agi de telle manière avec quelqu'un, ok, j'ai mal agi, je m'en suis rendu compte, je ne ferai pas la même chose une deuxième fois avec un autre frère ou une sœur. Donc j'ai aussi acquis de la sagesse à ce moment-là. Puis les épreuves, ah les épreuves, qu'est-ce que ça nous apprend sur la sagesse, hein. Donc aimer les épreuves, aimer la difficulté, parce que vous voulez devenir sage. Mais oui, mais c'est comme ça que ça se passe, parce que même s'il n'y a pas forcément des grosses épreuves, reconnaître qu'on a mal fait. Vous aimez reconnaître que vous avez mal fait ?
Non.
Moi, j'aime pas trop. Hein. Je le fais, on s'habitue à le faire. Mais globalement, c'est pas un exercice qu'on fait avec joie. Mais c'est ça, devenir sage, c'est reconnaître qu'on fait mal. Et Dieu veut nous montrer comment faire bien, tout simplement. Donc avec l'expérience, normalement les vieux chrétiens, là, hein, les briscards de la vie chrétienne, c'est des super sages. Ils ont des cheveux blancs, comme dit l'Ecclésiaste, je crois, un truc comme ça. Donc si vous avez les cheveux blancs, c'est que quelque part vous êtes sages. Ça commence à venir chez moi, hein. Tout doucement. Non, c'est pas comme cela, évidemment. Mais ne confondons pas aussi connaissance et sagesse. Hein. Où est-ce que j'allais trouver ça ? C'est pas parce qu'on sait beaucoup de choses, qu'on connaît la Bible par cœur, qu'on est devenu forcément sage. C'est bien de connaître la Bible par cœur. De toute façon, je ne croirais pas quand on me dirait ça, mais déjà la connaître au maximum. Mais ce n'est pas parce que je sais tout que je suis sage. C'est en appliquant ce que j'ai appris, que je vais devenir sage. Et entre la connaissance et l'application, il y a souvent un grand fossé. On sait tout ce que Dieu veut souvent, mais on a des fois des difficultés tout simplement à le mettre en pratique. Et tant que j'ai cette difficulté-là, il ne faut pas que je me dise que je suis devenu sage. Au contraire, c'est que j'ai encore beaucoup de travail à faire dans ma vie. Donc la sagesse de Dieu doit être le modèle du croyant. C'est là où on va trouver un référent, c'est là où on va apprendre à puiser pour ma propre vie, pour devenir moi-même sage. Et quand je deviens sage, je deviens aussi un modèle de paix pour tous les autres. Et un exemple, pourquoi pas, aussi pour les autres. Pour terminer, je crois que la sagesse, elle est nécessaire pour tous les chrétiens. Vous êtes d'accord ? On a tous besoin, parce que moi j'aime bien la paix. Et si tout le monde est sage, je sais qu'on aura la paix. Mais si personne veut être sage, je sais qu'il y aura beaucoup de difficultés et de problèmes. Elle est nécessaire aussi pour notre vie personnelle, tout simplement. C'est quand même mieux de faire les choses avec sagesse que de façon humaine, on pourrait dire. Parce que cette sagesse va s'intéresser à tous les choix de notre vie. Comment je vais faire là, dans ce projet? Comment je vais répondre à cette personne, etc. Il me faut de la sagesse pour cela. Et c'est même au travail, c'est dans la famille, c'est avec les enfants, c'est dans tous les domaines, on a besoin de sagesse. Donc elle est nécessaire. Et le Seigneur, au travers de Jacques, nous rappelle que bien souvent, nous agissons avec une sagesse charnelle, fabriquée par nous, avec ce qu'on a. Mais lui voudrait simplement qu'on saisisse la sagesse qui est selon Dieu, qu'on apprenne cette sagesse selon Dieu. Et ça, ça se fait que dans la parole de Dieu. Je suis désolé. Hein. J'aimerais bien vous envoyer un petit logiciel, mais ça ne marche pas comme ça. Le logiciel, il est là-dedans. Et c'est comme ça qu'il faut se formater. Donc prenons du temps aussi, parce qu'avant de vouloir être sage, on l'a dit, il faut s'arrêter. Savoir où j'en suis et être honnête aussi avec nous-mêmes, que des fois on manque vraiment de sagesse. C'est seulement à partir de ce moment-là que Dieu va pouvoir commencer à travailler dans notre vie. Si on se croit toujours sage, ça ne marchera jamais. C'est le cœur, c'est toujours le cœur qui est là. Il faut le réformer, il faut le changer tout simplement et le laisser changer par le Seigneur. Sachons nous humilier devant Dieu, parce que c'est ça que Jacques est en train de nous dire. Il y a des prétentieux au départ, mais ce que veut dire Jacques, non, arrêtez d'être prétentieux avec votre sagesse. Humiliez-vous devant Dieu, et c'est comme cela, tout simplement, que cette sagesse, on va l'acquérir de la part de Dieu. Que le Seigneur nous aide dans ce long et difficile chemin que de devenir sage selon Dieu. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole et merci pour cet épître de Jacques qui nous remet forcément en question, parce que je crois qu'on est loin d'être sage et même très loin peut-être par rapport à toi. Mais rien n'est perdu, heureusement, et tu nous as laissé ta parole pour que nous la lisions, nous faisions déjà du bien, mais surtout pour que nous apprenions à te connaître toi, celui qui est sage absolument parfaitement. Apprends-nous à avoir envie de lire cette Bible pour justement produire cette paix aussi autour de nous et d'abord dans notre cœur, pour chasser tout ce qui nous fait du mal, comme ce zèle amer, cet esprit de dispute, l'amertume, le péché, tout simplement. Merci parce que tu nous proposes de nous reformater, entre guillemets, de nous changer, Seigneur. Alors, prends-nous à te laisser faire, tout simplement, et que nous puissions devenir sages. Prends-nous chacun à le devenir, pas à vouloir que l'autre soit sage, mais moi d'abord. Et cela, évidemment, produira des fruits d'abord dans l'Église, mais aussi peut-être avec tous ceux qui nous entourent. Et forcément derrière, nous deviendrons des témoins de Christ, tout simplement. Que ton nom soit glorifié. Aide-nous, Seigneur, dans ce domaine de notre vie. En Jésus-Christ. Amen.
Amen. Amen.